Nous allons écouter au chapitre 1, verset 39, la visitation de Marie à Élisabeth. Luc 1, 39. Et après, je lirai le récit de la naissance dans Luc 2. En ce temps-là, Marie partit en hâte pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant fit des bonds de joie en elle-même, et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa un grand cri et dit: « Tu es bénie entre les femmes, bénie aussi est le fruit de ton sein. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ?» Car lorsque sa salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru, ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Alors Marie dit: « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur l'humiliation de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône. Il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens. Et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur, en souvenir de sa bonté, comme il avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Après, il y a la naissance de Jean-Baptiste, et je poursuis maintenant au chapitre 2. Or, en ce temps-là, parut un décret de César Auguste pour faire recenser le monde entier. Ce premier recensement eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth en Galilée à la ville de David, qui s'appelait Bethléem en Judée, parce qu'il était de la famille et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le jour où elle devait accoucher arriva. Elle accoucha de son fils premier-né, l'emmaillota et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle d'hôte. Il y avait dans le même pays des bergers qui vivaient aux champs et montaient la garde pendant la nuit auprès de leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présenta devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppa de lumière et ils furent saisis d'une grande crainte. L'ange leur dit: « Soyez sans crainte, car voici, je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Tout à coup, il y eut avec l'ange l'armée céleste en masse qui chantait les louanges de Dieu et disait: « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour les hommes, objet de sa bienveillance. » Or, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, les bergers se dirent entre eux: « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la mangeoire. Après avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens. Puis les bergers s'en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, en accord avec ce qui leur avait été annoncé. 8 jours plus tard, quand vint le moment de circoncire l'enfant, on l'appela du nom de Jésus, comme l'ange l'avait appelé avant sa conception. Le mystère de la naissance de Jésus se révèle dans sa mort. Il faut bien comprendre qu'avant que les évangélistes Matthieu, Marc, Luc, Jean écrivent leur évangile, ils ont commencé par écrire la mort de Jésus. Plusieurs chapitres sur la passion et la mort de Jésus, sa résurrection. Après, ils ont continué à écrire ce que Jésus a dit et fait depuis son baptême 2 ans et demi avant. Ce n'est que plus tard que Matthieu et Luc ont chacun ajouté à leur évangile le récit de la naissance de Jésus. Et Matthieu d'une manière et Luc d'une autre manière. Vous voyez donc que le cœur de notre foi, il est dans cette mort et cette résurrection. Et le récit de la naissance va éclairer la signification de la mort et de la résurrection. On voit cette mort de Jésus déjà dans Matthieu, par le fait qu'il y a Rachel, la mère en Israël, qui pleure ses enfants à la naissance de Jésus, parce que ses enfants sont massacrés par Hérode. Et dans Matthieu, que je n'ai pas lu ce soir, c'est vraiment Joseph qui tient le rôle principal. C'est à lui que parle Dieu. C'est lui qui voulait, au moment où il voulait rompre avec sa femme, elle lui était déjà accordée en mariage. Donc, le fait qu'elle est enceinte ne pouvait que penser qu'elle avait été infidèle. Et on nous dit que Joseph était un homme juste. Il ne voulait pas la diffamer en public. Alors, il préparait comment le faire sans que ce soit public, comment rompre ce mariage. Et alors, Dieu lui dit, il vient du Saint-Esprit. Et Joseph, là, nous voyons qu'est-ce que c'est un homme aux yeux de Dieu. Il a accepté cette parole de Dieu. Il vit d'après la parole de Dieu, son couple. Il le vit d'après cette parole de Dieu. Et ça, son amour propre a dû en être fortement ébranlé. Mais vous savez que Saint Thérèse d'Avila a dit ceci, que notre amour propre, il mourra 15 minutes après notre mort. Je pense qu'elle n'est pas tout à fait juste. Je pense qu'il faut au moins 15 000 ans jusqu'à ce que notre amour propre meure. Et Joseph, il nous montre qu'est-ce que c'est un homme. Qu'est-ce que c'est un homme aux yeux de Dieu. Il croit la parole de Dieu. Eh bien, dans l'évangile de Luc, c'est différent. C'est à Marie que les paroles de Dieu sont adressées. Et aussi, avant Marie, c'était à Zacharie, le mari d'Élisabeth, que Dieu a parlé. Et on voit tout de suite que Luc montre qu'il y a, chez Zacharie, il n'y a pas la foi. Et il devient muet jusqu'à la naissance de son fils. Il ne croyait pas. Alors il devient muet. Et cette incrédulité n'empêchera pas la parole de Dieu de s'accomplir dans son couple stérile. Zacharie et Élisabeth, c'était un couple âgé, sans enfant. Et la parole de Dieu s'accomplit. Malgré l'incrédulité de Zacharie. Il est muet jusqu'à ce qu'il donne le nom à son fils. Et là, il retrouve la parole. Et le texte de l'évangile nous dit que là, ça a commencé à se répandre dans cette montagne de Judée, proche de Jérusalem. On situe à Ein Karem, le village natal de Jean-Baptiste. Et nous avons à Noël, d'après Luc, deux naissances miraculeuses à célébrer. Deux. Celle de Jean-Baptiste, 6 mois avant Jésus. Puis, celle de Jésus. Et dans l'évangile de Luc, on trouve aussi la mort en plein cœur de la naissance, puisque quand Marie et Joseph présentent leur enfant au temple à Jérusalem, on nous dit qu'un vieux croyant, Siméon, il est venu donner une parole de Dieu. Il a été guidé pour venir pile à l'heure où il y avait Joseph, Marie avec leur enfant en train de présenter leur premier-né au temple. Alors Joseph a dit à Marie, « À toi-même une épée te transpercera l'âme. » C'est évidemment une prophétie de ce qu'elle va vivre 33 ans plus tard, lorsque Jésus sera crucifié sous ses yeux. Donc nous voyons déjà comment, dans le récit même de Noël, nous sommes renvoyés à l'heure où Jésus est élevé sur la croix. Et c'est Marie qui porte cette passion et qui est portée par la foi. Une foi qui est étonnante. Elle a accepté les paroles, elle, de l'ange, contrairement à Zacharie. Et Luther dit que tout authentique croyant sera toujours surpris d'être croyant. Car la foi, nous ne pouvons pas expliquer comment elle est venue. On peut juste vous dire que c'est par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il y en a qui la lisent et ça ne produit aucun effet. Mais quand c'est l'heure où Dieu visite quelqu'un, alors cette parole de Dieu, elle crée des choses nouvelles. Elle crée des choses que nous ne connaissons pas, des choses dont nous n'avions aucune idée. C'est pour ça qu'à Noël, nous fêtons un acte créateur de Dieu. Si nous ne comprenons pas que dans la Bible, Dieu nous est présenté comme le Dieu créateur, nous ne pouvons pas comprendre Noël. Nous ne pouvons pas comprendre cette naissance. Dieu fait aujourd'hui des choses nouvelles. C'est le psaume 98 qui nous le dit aussi. Chantez à Dieu un cantique nouveau. Il fait des choses nouvelles. Et c'est les Juifs qui nous transmettent cette foi en Dieu comme créateur. Parce que ça a commencé lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Depuis 400 ans, ça forge une mentalité d'esclave. Et comment ont-ils pu devenir un peuple après 400 ans d'esclavage? Eh bien, c'est le miracle de la Pâque, de la sortie d'Égypte. Dieu a créé. Dieu a créé ce peuple. Il ne faut pas croire que les Hébreux étaient un peuple parmi d'autres, que Dieu, en regardant sur le monde, il a dit « Quel peuple je vais choisir là pour me révéler au monde ?» Il n'existait pas ce peuple avant que Dieu le crée. Et la sortie d'Égypte est la preuve qu'il existe un Dieu créateur. Il a fait traverser à pied la mer, là où les Égyptiens, eux, se sont noyés. Encore aujourd'hui, les Juifs, chaque année, célèbrent cette sortie d'Égypte. Ça s'appelle la Pâque, et il y a un repas autour de cela, qu'on appelle le Seder. Et ils disent cette parole que Marie dit dans son Magnificat. Dieu a vu notre humiliation. Et c'est pourquoi il est venu lui-même en personne nous sauver. Bien, c'est exactement ce que dit Marie aussi dans Luc 1, dans son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur l'humiliation de sa servante. Qu'est-ce que c'est l'humiliation? Ben, c'est ce qu'ont vécu les Hébreux en Égypte. Ils étaient voués à une mort certaine, ça c'est l'humiliation. Aucune porte pour se sauver, aucune solution au problème. Ça, c'est l'humiliation. Il n'y a que la mort comme issue. Et Dieu les a sortis de là parce qu'il est le Dieu créateur. Il a regardé l'humiliation. L'humiliation, quelle est l'humiliation dont Marie parle pour elle-même? D'abord, Marie, elle est ici vraiment une juive qui partage vraiment la destinée de son peuple. Et le peuple juif, vous savez bien qu'il est humilié sans arrêt. Et la pire des choses qui lui est arrivée, c'est la Shoah, il n'y a pas si longtemps. La Shoah est un aboutissement de tellement de persécutions. On a humilié. Et particulièrement à Noël, les chrétiens humiliaient les juifs. Parce que soi-disant, eux, les chrétiens, ils avaient la foi. Et les juifs ne l'avaient pas. Mais vous voyez qu'il y avait des gens comme Joseph dans le peuple juif qui étaient justes. Vous avez des gens comme Siméon et Anne, ces deux personnes âgées qui accueillent Jésus au temple quand il est encore tout bébé. Ce sont des justes. Ils ont la foi. Il y a toujours eu la foi. Marie, elle avait la foi. Elle est juive. Il y a toujours eu la foi. Il y a toujours eu des incrédules. Mais Dieu fait avec les deux ensemble pour faire avancer son projet. Zacharie n'a pas cru, mais Marie, elle a cru. Et ensemble, le projet de Dieu a avancé. Quand Dieu décide d'agir, ce n'est pas notre incrédulité qui l'arrêtera. Et dans ce Magnificat, Marie parle de ce regard de Dieu sur son humiliation. Je pense aussi, quand elle dit « Dieu a regardé mon humiliation », je pense à ce qui s'est passé à la croix aussi. Quand Jésus est mort, Ésaïe 53, écrit plusieurs siècles à l'avance, décrivait en détail cette mort et disait « Il a été humilié et nous on pensait que c'était de sa faute à lui qu'il a été humilié. Mais en fait ce sont nos fautes qui étaient sur lui. Et là il a pris l'humiliation que nous, on avait méritée et que Dieu ne pouvait pas nous enlever parce que c'est de nos péchés qu'il a porté. Et Dieu l'a humilié. Il est mort sur la croix parce que c'est notre humiliation qui est regardée par Dieu quand Jésus est mort. Et donc maintenant, nous ne pouvons plus dire que nous sommes rejetés de Dieu. Nous ne pouvons plus dire cela. Et Dieu a regardé déjà notre humiliation et il ne va pas nous faire payer nos fautes. Dieu a regardé mon humiliation. On peut venir à Dieu que tel qu'on est. Parce que Dieu ne vient pas vers l'être humain que nous pensons être dans notre tête. Il vient vers l'être humain que nous sommes en chair et en sang, en chair et en os, aujourd'hui. Dieu a regardé l'humiliation de sa servante. Et plus loin, Marie, elle en tire la conclusion au verset 53. Dieu élève les humbles. Dieu élève ceux qui sont humiliés. Il les sauve. Il les fait monter à un tel degré qu'ils sont auprès de Dieu lui-même sur les genoux de leur papa dans le ciel. Voilà comment Dieu élève les humiliés. Et pourquoi, quand j'étais jeune, je me disais, mais si c'est vrai tout ce que raconte la Bible, que le salut est venu, pourquoi il y a encore toute la misère dans ce monde? Et pourquoi le monde ne va pas mieux? Puis j'ai longtemps douté à cause de ça, mais si nous lisons la Bible, la réponse elle est dedans. Dieu se révèle. Mais dans les petits, dans les humiliés, dans les gens qui n'ont pas pignon sur eux, qui n'ont pas l'honneur de ce monde, n'est-ce pas? Il faut choisir entre l'honneur de ce monde et un honneur qu'on a auprès de Dieu pour l'éternité. L'honneur de ce monde, il est passager. Dieu élève les humiliés. Il regarde notre humiliation. Jésus a été humilié, et non seulement il a été, et par le fait qu'il est né déjà sur la paille. La mangeoire, ça veut dire une crèche. Il est né là, dans la paille, là, comme ça. Voilà. Il a été mis dans une crèche. Et ça a été le signe donné au berger. Vous trouverez un bébé emmailloté, couché dans une crèche. Il n'y en avait pas beaucoup. Vous en trouverez un, et c'est celui-là dont on vous parle, qui est votre sauveur. Car les anges disent un mot qui est bizarre. Ils disent aux bergers, il vous est né un sauveur. On dirait que c'est les bergers qui ont accouché du bébé. Il vous est né un sauveur. Et oui, nous devons considérer qu'il est né à nous. Et dans Dans son commentaire, Martin Luther, il invoque Marie et il fait cette prière à Marie que je vais vous lire. Toi, Marie, ton fils est le fils de David. Il est le sauveur du monde, le Seigneur. Tu as eu avec lui une intimité qu'aucune autre femme n'a connue. Et cet honneur ne pourra jamais t'être enlevé. Mais à moi, il est encore plus proche qu'à toi. Il est mort et ressuscité pour moi. Nous pouvons tous faire cette invocation à Marie. Il est proche de toi comme il n'a été proche d'aucune femme, mais il est encore plus proche de moi. Et nous pouvons nous aussi le dire, puisque quand nous prenons tout à l'heure le pain et le vin, nous disons bien, n'est-ce pas, que nous avons communion au corps et au sang de Jésus. Cette communion au corps et au sang de Jésus, c'est un acte créateur de Dieu quand il nous a ressuscités en Christ. Ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est quand j'ai lu dans l'évangile de Jean qui insiste tellement sur le fait que Jésus, on ne sait pas d'où, comment il vit, il est venu sur terre, on ne sait pas d'où il vient. Eh bien, à un moment donné, quand même, Jésus parle de sa naissance. C'est dans Jean 18, et c'est tout proche de sa mort. Au moment où sa mort approche, il va parler de sa naissance à Pilate. Il dit à Pilate, Jean 18, verset 37, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pour parler de la vérité, Jésus rappelle, je suis né pour cela. Nous avons ce verset qu'on en voit parfois à la figure des incroyants, mais ce verset, c'est une garantie que Jésus est vivant pour chacun de nous. Ce n'est pas pour avoir raison dans des discussions. C'est une garantie qu'il est aujourd'hui, encore lui qui est né à Noël, il est encore aujourd'hui avec nous vivants, en chair, et nous avons communion à sa chair et à son sang. Il nous dit dans Jean au chapitre 6, « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. » Donc si Jésus parle de sa naissance au moment où il va mourir, c'est pour que nous comprenions bien que quand il va mourir, ça va être une naissance pour nous. C'est ça ce que je voulais vraiment que nous entendions. Ces paroles, je ne les invente pas, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est l'évangile du Dieu éternel. L'évangile éternel pour lequel nous adorerons toujours Dieu dans le ciel et son Fils. Parce qu'il nous a fait naître par la mort de son Fils. Et ça, ce n'est pas nous qui l'avons fait. Personne de nous n'a fait cela. On parle souvent de différentes étapes pour recevoir le salut. Mais le salut, il est d'abord donné par Dieu. Et ensuite, pour le vivre, il y a des choses à faire. Mais d'abord, il est donné. Il est d'abord donné. C'est une nouvelle naissance qui nous est donnée dans la mort de Jésus parce qu'il est né par un acte créateur de Dieu. Et quand il est ressuscité, c'est aussi un acte créateur de Dieu dans lequel nous sommes inclus. Karl Barth, qui est un grand théologien du début du XXe siècle et qui a résisté aux nazis par sa théologie, il disait, on ne peut pas chercher la grâce de Dieu, on ne peut que trouver grâce. On ne peut pas chercher la grâce de Dieu parce que ce n'est pas nos efforts qui vont amener une grâce. C'est
on peut que trouver grâce. Et ce que je vous annonce ce soir, c'est que dans la naissance de Jésus et dans sa mort, nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. C'est ce que disent les anges aux bergers, mais à force d'entendre tous ces chants de Noël, on ne saisit plus ce profond sens des paroles des anges. Ils disent aux bergers, je vous le traduis littéralement du grec, tout, et ça c'est l'évangile de Jean nous dit, tous les anges, toute l'armée céleste, hein, les anges sont des créatures réelles, simplement invisibles. On n'est pas dans des contes de fées. Hein. Donc tous les anges louent Dieu en disant, dans les cieux, gloire à Dieu, dans les lieux élevés plutôt, dans les lieux élevés, gloire à Dieu, et sur terre, paix, et dans les hommes, bonne volonté. C'est-à-dire, Dieu n'a rien à reprocher à qui que ce soit. Il n'a que bonne volonté envers chaque être humain. Voilà ce que proclament les anges. Amen.